VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 12 novembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, Paris accueille une conférence internationale sur la Libye pour faire pression pour la tenue des élections et le respect des résultats. Tournée du secrétaire d'État américain la semaine prochaine en Afrique, Anthony Blinken est attendu au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. Au Rwanda, l'opposant Dieudonné Niyonsenga a été condamné à 7 ans de prison pour des propos sur YouTube. COP26, discussion âpre pour parvenir à un compromis alors que le sommet de Glasgow prend fin aujourd'hui. Ne manquez pas dans cette session d'information la minute éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Une trentaine de dirigeants sont réunis à Paris pour une conférence pour tenter d'aider la Libye à retrouver la stabilité et tenir des élections le 24 décembre. Le président français Emmanuel Macron est l'hôte de cette énième rencontre sur la Libye. Les détails avec Nani Talani.
La conférence vise à apporter un soutien international à la poursuite de la transition politique en Libye et à la tenue des élections selon le calendrier prévu et faire en sorte que le résultat de ces élections soit respecté par tous, selon la présidence française. Sans ces élections, il n'y aura pas de gouvernement en état de marche l'an prochain en Libye, avertit un responsable américain en agitant, tout comme Paris, la menace de sanctions contre ceux qui veulent gâcher le processus. La vice-présidente américaine Kamala Harris, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov sont sur place. Alger a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Les voisins de la Libye ont aussi été conviés, dont le Niger et le Tchad. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, doit intervenir en visioconférence. Les chances de succès de la rencontre de Paris sont jugées incertaines après les conférences de Berlin 1 et 2. L'absence des présidents algériens, turcs et russes et l'impasse actuelle en Libye risquent d'entacher cette réunion, selon Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe basé en Suisse.
Le président français Emmanuel Macron a par ailleurs discuté de la transformation du dispositif militaire français au Sahel en recevant ses homologues burkinabés Rochmar Christian Kabore, nigérien Mohamed Bazoum et le président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno. Au cours de cette réunion d'une heure à l'Élysée, les quatre dirigeants ont fait un point d'étape sur la transformation en cours du dispositif militaire français au Sahel qui vise à recentrer l'action de la France sur la lutte contre le terrorisme et le soutien aux armées nationales, selon la présidence française. Ils ont également évoqué les activités opérationnelles à venir de la force conjointe du G5 Sahel, a précisé l'Élysée. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken se rendra la semaine prochaine au Kenya, au Nigeria et au Sénégal. Selon son porte-parole, il devrait discuter durant cette tournée de la fin de la pandémie de COVID-19 et de la lutte contre le changement climatique. Les précisions de John Lindon.
Anthony Blinken va rencontrer le président de chacun de ces trois pays pour faire progresser la collaboration entre les États-Unis et l'Afrique sur la propriété mondiale commune, a déclaré Ned Price, porte-parole du département d'État. D'autres sujets tels que la revitalisation des démocraties, la promotion de la paix et de la sécurité ou encore la manière de rendre l'économie mondiale plus inclusive seront abordés lors de ce voyage prévu de lundi à samedi. Anthony Blinken se rendra d'abord à Nairobi où il va rencontrer le président Uhuru Kenyatta et d'autres responsables kenyans. Il va insister sur le soutien des États-Unis à l'organisation d'élections pacifiques en 2022. Il ira ensuite à Abuja pour rencontrer le président nigérian Muhammadu Buhari et va prononcer un important discours sur la politique américaine en Afrique. Le secrétaire d'État Blinken va terminer son voyage à Dakar au Sénégal où une rencontre est prévue avec le président Macky Sall.
Anthony Blinken a prévenu aujourd'hui que l'Éthiopie risquait l'implosion qui entraînerait des troubles dévastateurs pour la région si le gouvernement et les rebelles ne menaient pas de pourparlers. Comme mesure conservatoire, Washington a pris ce vendredi des sanctions contre l'armée et le pouvoir érythréen impliqué dans le conflit en Éthiopie. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a suspendu de ses fonctions la vérificatrice générale et son adjoint, une décision critiquée aujourd'hui par la société civile. Madame Lara Taylor-Pierce et son adjoint Tamba Momo ont reçu deux lettres séparées de suspension émanant de la présidence sierra-léonaise qui n'a pas fourni davantage d'explications. La mesure de suspension intervient avant la présentation du rapport annuel du Bureau du vérificateur général sur les finances publiques au titre de l'année 2020, attendu dans les prochains jours. Au Rwanda, un critique du gouvernement sur YouTube a été condamné à 7 ans de prison par un tribunal de Kigali. Dieudonné Niyonsenga, dont la chaîne Ishema TV a accumulé plus de 15 millions de vues, a été reconnu coupable de 4 chefs d'accusation, notamment d'usurpation d'identité. Nathalie Barge.
Dieudonné Niyonsenga, qui ne s'est pas présenté au tribunal hier, a été arrêté chez lui juste après le jugement sur ordre du tribunal pour purger sa peine de prison. Son avocat, Maître Gatera Kachabana, a dit faire appel du verdict. Le youtubeur est connu pour ses vidéos dénonçant les violations des droits humains. En avril 2020, il a diffusé une série de vidéos accusant les soldats rwandais d'abus dans les bidonvilles dans le cadre du confinement pour la lutte contre le coronavirus. Il avait été arrêté et accusé d'avoir transgressé les mesures de restriction en se faisant passer pour un journaliste avant d'être envoyé en prison. Il a été acquitté et libéré 11 mois plus tard, mais les procureurs ont fait appel. Le Rwanda est régulièrement accusé de réprimer les critiques et l'opposition. Le mois dernier, la youtubeuse Yvonne Idamange a été condamnée à 15 ans de prison pour incitation à la violence. Et en juin, le professeur Aimable Karasira, connu pour sa chaîne YouTube, a été arrêté et inculpé de négationnisme.
L'île Maurice a imposé aujourd'hui une série de nouvelles mesures de restriction pour faire face à la recrudescence des cas de COVID-19 malgré un taux de vaccination élevé. L'île Maurice avait pleinement rouvert ses frontières aux touristes après de longs mois d'arrêt en raison de la pandémie, mais selon les derniers chiffres communiqués à l'OMS, l'île Maurice a près de 19 000 cas et 240 décès contre 12 600 infections et 44 décès au 1er octobre. La plupart des nouveaux cas sont liés au variant Delta selon le ministère mauricien de la Santé. Un député tunisien accusé d'avoir harcelé sexuellement une étudiante et dont les agissements avaient déclenché un mouvement MeToo sur les réseaux sociaux a été condamné ce vendredi à 1 an de prison ferme. Zouer Maklouf, un député indépendant, a été photographié en octobre 2019 à Nabeul, dans le centre-est de la Tunisie, avec une lycéenne qui l'a accusé de harcèlement. D'après l'élève qui avait publié les photos sur les réseaux sociaux, il avait suivi sur le chemin de son lycée. Les corps de 4 migrants marocains qui tentaient de rejoindre l'Europe, dont 2 jeunes femmes, ont été découverts sur une plage proche de Skirat, près de Rabat, selon les autorités et la famille d'une des victimes. 3 autres personnes ont été secourues après le naufrage de leur embarcation à l'embouchure de l'Oued Sherat, au bord de l'océan Atlantique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La COP26 prend fin ce vendredi à Glasgow, mais le projet de déclaration finale fait l'objet d'âpres discussions. Ce projet doit être axé sur l'accélération de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, l'aide aux pays pauvres face aux catastrophes et la limitation des énergies fossiles. Abdourahman Dia.
On va y arriver. On n'y est pas encore, a lancé l'émissaire américain John Kerry en arrivant pour une nouvelle séance de négociations en fin de matinée. Il s'est insurgé contre les subventions accordées aux énergies fossiles, les qualifiant de folie. Simon Steele, ministre du Climat de la Grenade, affichait un optimisme prudent tout en soulignant qu'en l'état actuel, le texte final représentait le strict minimum. La réduction des émissions est considérée comme une priorité absolue alors que le monde se dirige vers un réchauffement catastrophique de 2,7 degrés Celsius selon les Nations Unies. L'accord de Paris fixe l'objectif de contenir la hausse de la température bien en deçà de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Sur les questions de l'aide aux pays pauvres, la nouvelle version du texte appelle les pays riches à remplir et même aller au-delà de leurs promesses non tenues de fournir 100 milliards de dollars par an.
La vice-présidente américaine Kamala Harris a dénoncé aujourd'hui une activité très préoccupante du président biélorusse Alexandre Loukachenko, accusé par les Européens d'orchestrer un trafic de migrants vers l'Union européenne. Les Occidentaux ont condamné hier à l'ONU une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par le Bélarus à la frontière avec la Pologne afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne et a appelé à une réaction internationale forte en dépit de l'appel au dialogue lancé plus tôt par le président russe Vladimir Poutine. L'Union européenne a par ailleurs exprimé son inquiétude ce vendredi sur des mouvements militaires russes près de la frontière avec l'Ukraine, à propos desquels Washington a demandé des explications à Moscou. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec John Lydon.
40 milliards de francs CFA, c'est le montant de la somme que le groupe Bank of Africa vient de mettre à la disposition de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, une ligne de crédit destinée à soutenir le secteur privé dans les 15 pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les secteurs qui pourraient le plus bénéficier de ce financement sont ceux opérant dans les domaines du commerce et de l'industrie. Ici aux États-Unis, les Américains noirs sont toujours très peu nombreux à accéder à la propriété selon la Fédération nationale des agents immobiliers. Les acheteurs noirs ne représentent que 6% du total des acheteurs de maisons cette année, un chiffre qui a peu changé au cours des deux dernières décennies selon un rapport de la Fédération nationale des agents immobiliers publié jeudi. Cette année, le prix médian des maisons s'élève à 305 000 $, soit plus de 30 000 $ de plus qu'en 2020. Evergrande, le promoteur immobilier chinois ultra endetté dont la faillite potentielle pourrait ébranler l'économie nationale, a réussi à payer à temps des intérêts obligataires, évitant ainsi le défaut de paiement, a indiqué jeudi l'agence Bloomberg. Les marchés ont bien réagi à la nouvelle, l'action du groupe s'envolant de plus de 8% dans la matinée à la bourse de Hong Kong. Evergrande traîne une dette estimée à quelque 260 milliards d'euros.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Les matchs de la cinquième journée des éliminatoires du Mondial à Qatar 2022, zone Afrique, se poursuivent. L'Algérie remporte son duel à distance face au Burkina Faso dans le groupe A. Les Fenech se sont débarrassés de Djibouti 4-0 alors que les étalons ont fait match nul 1-1 face au Niger. Conséquence au classement, les Algériens renforcent leur première place avec 13 points et n'ont besoin que d'un match nul mardi face au Burkinabé, 11 points, pour se qualifier pour les barrages. Toujours ce soir, le Gabon reçoit la Libye, la Guinée fait face à sa voisine de Bissau, l'Angola se déplace en Égypte et le Maroc joue le Soudan. Après le Sénégal et le Maroc, le Mali est le troisième pays qualifié pour les barrages. Hier, les Aigles se sont imposés 3-0 à Kigali face au Rwanda. Avec désormais 13 points, le Mali est sûr de finir en tête du groupe E devant l'Ouganda qui totalise 9 points après son nul 1-1 face au Kenya. Belle opération pour le Bénin qui reprend la tête du groupe J devant les Léopards de la RDC. Grâce à sa victoire 2-0 face à Madagascar, le Ghana a fait un match nul 1-1 face à l'Éthiopie, insuffisant pour chipper la première place du groupe G à l'Afrique du Sud qui a battu le Zimbabwe 1-0. Dans la zone Europe, le Portugal n'a pu faire mieux qu'un nul 0-0 contre l'Eire, un résultat qui lui permet de reprendre la tête du groupe A à la différence de but devant la Serbie, qu'il reçoit pour la dernière journée dimanche, déjà qualifiée. L'Allemagne s'est promenée 9-0 à Wolfsburg contre le Liechtenstein. Malgré la présence de Zlatan Ibrahimovic, la Suède a chuté en Géorgie 2-0. L'Espagne s'est imposée en Grèce 1-0 et prend la première place du groupe B à la Suède qu'elle retrouvera dimanche à Séville pour la dernière journée des éliminatoires pour le Mondial Qatar 2022. La police kényane dit avoir arrêté Nick Mandawa, président de la Fédération de football, après la dissolution de l'organe pour des allégations de corruption. Hier, la ministre des Sports, Amina Mohamed, a annoncé la dissolution de la fédération après qu'une enquête gouvernementale a révélé qu'elle n'a pas pu rendre compte des fonds reçus du gouvernement et d'autres sponsors. Elle a nommé un comité intérimaire pour gérer les affaires courantes avant les élections prévues dans 6 mois. Nick Mandawa a contesté cette décision, assurant qu'il est toujours le président de la Fédération kényane de football. NBA. À Philadelphie, l'absence de Joel Embiid positif au COVID-19 s'est encore fait ressentir pour les Sixers qui ont concédé un troisième revers 115-109 d'affilée face aux Raptors à Los Angeles. Le Heat, battu après prolongation mercredi par les Lakers, l'a encore été de peu par les Clippers, 112-109. Utah s'est incliné devant Indiana, 100-111.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. De nouvelles études révèlent que la pandémie de COVID-19 a été nuisible aux médias en Afrique australe, la presse écrite étant la plus touchée. Harare, la capitale zimbabwéenne, est l'un des endroits où l'impact a été particulièrement ressenti. Reportage de Columbus Mavunga, le récit est de Nani Talani.
Selon le chercheur Reginald Rumney, professeur de journalisme à l'Université de Rhodes en Afrique du Sud, les médias de la région d'Afrique australe ont été durement touchés par le COVID-19.
Cette crise, en particulier les blocages et les restrictions de mouvement, a obligé le public en ligne à consommer toutes les actualités diffusées. Les journaux et les magazines papier ont été durement touchés. Et bien sûr, la baisse de la diffusion s'est accompagnée d'une énorme baisse des revenus, d'une réduction du personnel et d'une grande restructuration de l'industrie de la presse dans la région. Beaucoup de journaux ont été obligés d'aller en ligne et d'arrêter complètement d'imprimer. Les licenciements ont été dramatiques.
Retrenchments were dramatic.
Au Zimbabwe, Alpha Media Holdings, qui publie Newsday, le Zimbabwe Independent et The Standards, a cessé d'imprimer la version papier de ses journaux pendant des mois, déplaçant toutes les publications en ligne. L'ensemble de son personnel a subi une baisse de salaire de 50%, tandis que ceux qui n'étaient pas directement impliqués dans la production de la version électronique ont été mis en congé. En Afrique du Sud, Associated Media Publishing a cessé de publier ses magazines, dont Cosmopolitan, House and Leisure et Woman on Wheels, tandis que Caxton et CTP Publishers and Printers ont annoncé la fermeture de leurs magazines. L'hebdomadaire sud-africain Mail and Guardian a continué, mais a déclaré que certains annonceurs ont renoncé à faire de la publicité. Le professeur Reginald Rumney a déclaré que sans un revirement spectaculaire ou une aide extérieure telle que des fonds de donateurs, la plupart des maisons de presse d'Afrique australe ne pourront sortir du gouffre. Johanna Gadzikwa est professeure de médias en Afrique du Sud. Lors du lancement du rapport, elle a déclaré que la pandémie a provoqué une redéfinition de l'industrie des médias en Afrique australe qui pourrait avoir un effet néfaste sur les sociétés de la région. Selon Johanna Gadzikwa,
la mort ou la baisse des chiffres de diffusion est inquiétante. Nos réflexions devraient porter sur la voie à suivre parce que l'actualité est quelque chose que nous ne pouvons pas ne pas avoir dans nos sociétés. Il se passe beaucoup de choses au Zimbabwe, en Afrique australe.
À cela s'ajoute au Zimbabwe le fait que les défenseurs des médias affirment que les autorités ont agressé des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Nigel Nyamutumbu est à la tête de Media Alliance of Zimbabwe.
Concernant le Zimbabwe, vous trouvez que d'un côté, nous avons un problème d'argent, nous avons un problème de ressources, nous avons aussi un problème de politique, de volonté politique, où vous pouvez effectivement parler des textes réglementaires qui ont servi à faire respecter les confinements.
Nigel Nyamutumbu dit qu'on ne peut pas avoir un média florissant dans un environnement d'exploitation médiocre. En ce moment, même avec le COVID-19, l'Afrique australe n'est pas un environnement propice au journalisme écrit.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La santé mentale est très peu reconnue dans beaucoup de pays africains. La psychothérapeute Virginie Kamwene, originaire de la RDC, traite des personnes de la diaspora ici aux États-Unis, dont des femmes qui peinent à s'exprimer dans une communauté qui pèse sur l'individu jusqu'au sein de la famille. Nathalie Barge a joint le docteur Kamwene à Lawrence, dans le Massachusetts.
Dans les familles africaines, chez nous, nous acceptons jamais la santé mentale parce que nous sommes liés à des religions, à des cultures. Nous ne croyons pas à ça. La santé mentale, c'est vrai et c'est pour tout le monde. Je me rencontre avec le parent à travailler, à aider le parent à comprendre les difficultés que leurs enfants ont en vivant dans le milieu américain. Parce que le parent africain, des fois, on n'est pas à l'écoute de nos enfants et ça, ça crée des émotions mentales.
En ce qui concerne les femmes, est-ce que vous avez noté en particulier des cas qui seraient dus là aussi à la culture, voire des femmes qui n'osaient pas trop s'exprimer?
Si, je vois aussi des femmes africaines comme moi qui sont en train d'endurer des violences domestiques et des violences émotionnelles, surtout les femmes immigrantes. Quand on s'immigre ici en Amérique, ils n'ont pas une voix de s'exprimer de tout ce qui se passe dans la maison. Quand on s'exprime, on voit la communauté, le femme en père de la communauté, ma communauté va dire que c'est l'homme qui t'a amené ici, tu ne peux pas répliquer de cette manière, tu dois te soumettre avec la culture africaine, tu ne dois même pas parler de tes droits. Alors, j'encourage les femmes d'avoir une voix, de parler, de s'exprimer.
Est-ce que vous rencontrez encore des familles qui viseraient à forcer leurs filles à être mariées à un très jeune âge?
Oui, oui. Les Africains qui sont acculturés en Amérique et même toute la population, qu'ils soient blancs, hispaniques ou noirs, il y a des cas pareils pour un mariage forcé. Ici, avec la population, par exemple, hispanique, ça s'est fait surtout pour les documents. Je vois aussi la population libanaise qui parle français, je vois des populations indiennes, vietnamiennes. Tu vois, j'ai des cas, par exemple, la population indienne. Si vous avez une jeune fille, ce sont des parents qui vont prendre des photos et chercher, naviguer dans des familles, trouver un mari pour votre fille. Donc, il y a beaucoup de cas, il y en a toujours. On voit des malades qui viennent à cause de ça et ça, ça affecte leur vie. Ça crée des conflits énormément pour la vie avec le parent qui doit attendre. Je ne vais pas être en contact avec ma famille parce que je n'ai pas voulu. On m'a envoyé d'aller épouser cet homme. Cet homme est en train de m'abuser. Donc, on voit des cas pareils. Et puis, si c'est l'enfant qui est en dessous de l'âge de 18 ans, mon travail de psychothérapeute est comme si tu travailles aussi avec le système de la cour, tu travailles en collaboration avec la police, tu vas faire un rapport. C'est comme des cas d'exploitation sexuelle.
Virginie Camouenet, spécialiste de l'autisme et des thérapies familiales dans le Massachusetts aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Nous restons aux États-Unis. Les spécialistes de la cybersécurité affirment qu'il existe des milliers de comptes sur les réseaux sociaux proposant de fausses cartes de vaccination aux personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Ils leur promettent d'ajouter leurs faux papiers de vaccination dans des bases de données électroniques. Un reportage de Lesia Bakalet à Washington, relaté par Yacouba Ouedraogo.
La plupart des Américains vaccinés contre le COVID-19 le prouvent en présentant un petit papier blanc rempli à la main. Il contient le nom complet de la personne, sa date de naissance, le type de vaccin qu'il a reçu, le nombre de doses et le numéro du lot. Il a été conçu pour informer et non pour protéger contre la fraude, selon Isaac Bledsoe, agent du département américain de la santé et des services sociaux.
La carte elle-même est censée être un dispositif de communication entre un prestataire et un patient pour montrer qu'il est vacciné. Et même un rappel pour montrer, le cas échéant, qu'une deuxième dose doit être administrée.
Ce papier est largement utilisé comme preuve de vaccination aux États-Unis. Alors que de plus en plus d'entreprises demandent une preuve de vaccination, les autorités affirment que de plus en plus de fausses cartes sont utilisées. Isaac Bledsoe, agent du département américain de la santé et des services sociaux.
Début 2021,
nous avons vu passer peut-être 5 à 6 plaintes par jour. Maintenant, nous recevons peut-être entre 20 à 25 plaintes par jour via notre hotline de fausses cartes de vaccination.
Les experts en cybersécurité affirment que les sites proposant de fausses cartes de vaccination sont passés du Darknet à des sites plus largement utilisés. Eric Feinberg est de la Coalition pour un web plus sûr.
C'est assez grave. Ils utilisent Facebook, Instagram, Telegram et WhatsApp pour commercialiser et promouvoir ces cartes.
Dans certains groupes en ligne, de fausses cartes de vaccination sont ouvertement proposées et des clients satisfaits publient même leurs photos avec des faux. Les experts de la Coalition pour un web plus sûr ont essayé et se sont rendus compte que les fraudeurs réagissent rapidement et garantissent la livraison dans tous les États-Unis pour $200. Les experts de Checkpoint Software Technologies affirment que les ventes ont considérablement augmenté après que le gouvernement fédéral a rendu le vaccin obligatoire pour les travailleurs fédéraux. Brian Linder, membre de la Checkpoint Software Technologies.
Le nombre de vendeurs de fausses cartes de vaccination a été multiplié par 10. Nous avons donc vu environ 1000 vendeurs en août et en septembre, après l'annonce, ils atteignaient 10 000.
Les spécialistes de Checkpoint Software Technologies affirment qu'une solution possible consiste à développer une base de données de vaccination fédérale unifiée. En plus, il faudrait des cartes numériques qui vérifient le statut de vaccination, ce que certains pays européens font déjà.
On termine aujourd'hui notre odyssée dans l'univers des membres de la diaspora africaine aux États-Unis qui ont conquis un poste électif sur l'échiquier politique américain. Aujourd'hui, VOA Afrique vous propose de découvrir Omar Fateh, dont les parents sont originaires de la Somalie. Omar Fateh est le sénateur régional pour la 62e circonscription du Minnesota. Vous reconnaîtrez pour la traduction la voix d'Arzuma Compaoré.
Mon nom est Omar Fateh. Je suis un sénateur régional dans la 62e circonscription du Minnesota, dans le sud de Minneapolis. Je suis né à Washington, D.C. et j'ai grandi en Virginie. Lors de la campagne électorale, j'ai fait remarquer à mes collègues que je grandissais dans un foyer d'immigrés, mais au sein de la culture américaine, qui à son tour est un creuset d'idées, de pensées, de religions et ainsi de suite. Je pense que je suis le mieux indiqué pour combler le fossé entre les nouveaux immigrants et les personnes qui sont ici depuis longtemps. J'ai la chance de représenter un district très diversifié dans le sud de Minneapolis. Il y a beaucoup de gens de la classe ouvrière. Ce sont des gens qui ont été très durement touchés l'année dernière par le meurtre de George Floyd, le soulèvement qui a suivi, mais aussi par le COVID-19 et qui nous a tous affectés. J'ai donc eu la chance de former des comités au sein de ces communautés pour qu'ils puissent m'éduquer, mais aussi pour que je ramène leurs idées à l'Assemblée législative afin de les transformer en actions et en projets de loi. Ainsi, un grand nombre de projets de loi que nous élaborons sont en fait des idées proposées par les électeurs. Pendant les premiers mois de la pandémie, les gens ont vraiment souffert. Des entreprises ont fermé leurs portes, mais elles ont rebondi, elles sont revenues. Les clients ont continué à venir et à soutenir ces entreprises locales appartenant à des immigrants. Et elles continuent de prospérer. Donc, elles ont vraiment rebondi après le COVID-19. Nous avons beaucoup d'entreprises appartenant à des immigrants, en particulier dans le domaine des maisons de retraite, les groupes de soins à domicile, les propriétaires de maisons et les personnes qui ont eu des difficultés avec l'aspect administratif du département des services sociaux. L'une des choses que j'ai essayé de faire est de combler le fossé entre la communauté des immigrants et le gouvernement, les officiers d'état civil et leurs adjoints. J'ai organisé des réunions avec des départements ainsi qu'avec les propriétaires d'entreprises afin qu'ils puissent comprendre pleinement tout changement de politique à venir. Nous devons nous rappeler qu'à cause du COVID, beaucoup de gens ont perdu leur travail, beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage et beaucoup de gens ont eu du mal à payer leur loyer. Et si l'on ajoute à cela le meurtre de George Floyd, et qui a été un meurtre national, les gens ont vu un homme noir innocent être torturé à mort pendant 9 minutes. Les gens sont descendus dans la rue, ils étaient vraiment bouleversés. J'espère poursuivre le bon travail que notre bureau et nos collègues ont fait ici en m'assurant que nous donnons la priorité à la sécurité publique, en m'assurant que nous investissons dans les logements abordables et des logements publics afin de ne pas évincer nos résidents et de préserver notre diversité. Tout cela en m'assurant que nous avons un système de soins de santé à payeur unique et qui n'est pas lié à l'emploi afin de nous assurer que les soins de santé sont fondamentalement un droit humain. Is fundamentally a human right.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.